Cet épisode est réalisé en collaboration avec Les Canaux, une association qui conseille, forme et accompagne les acteurs des économies solidaires et innovantes. Les nouveaux aventuriers, itinérance aux quatre coins de la France, c'est parti pour l'aventure. Avec mon vélo et mon micro, je parcours la France à la rencontre des héros de nos territoires. Ces femmes et ces hommes sont artisans, paysans, restaurateurs ou encore chefs d'entreprise et façonnent le monde de demain. Dans chaque épisode, un invité me raconte son parcours, son savoir-faire, son quotidien, ses doutes, ses joies ou encore ses conseils. À travers cette série de conversations, ce podcast met en lumière les meilleures pratiques du présent et celles et ceux qui les incarnent. Dans cet épisode, je pose mon micro à Paris, à la rencontre d'Elisa Yafchitz, directrice générale de l'association Les Canaux, et de Sakina Emsa, créatrice de mode. Un portrait croisé entre deux parcours différents mais une volonté commune, promouvoir une mode désirable, durable et responsable, mais aussi une mode qui donne sa juste place aux femmes de tout âge et de tout horizon. Avec Elisa et Sakina, on aborde les enjeux de la mode responsable, la manière dont Sakina s'est saisie de ces enjeux en tant que créatrice de mode, ou encore le rôle et l'accompagnement des canaux dans ce domaine. La mode militante, une conversation enregistrée à la boutique du Front de Mode, à Paris, et un reportage photo à retrouver sur le site internet du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Attachez vos ceintures, c'est parti pour l'aventure. Bonjour Sakina, bonjour Elisa.
Bonjour.
Alors je suis très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui. Nous sommes au Front de Mode à Paris, une boutique française de vêtements écologiques et bio. Sakina, tu es créatrice de mode et tu es notamment à l'initiative de ce concept store et laboratoire atelier. Nous allons y revenir dans quelques instants. Et Elisa, tu es la directrice générale des Canaux. Un plaisir de te retrouver après un premier épisode enregistré il y a quelques mois avec Marius Dupavé. Alors, il y a une tradition en début de ce podcast. Je demande à mes invités de me raconter une aventure qu'ils ont vécue et qui les a particulièrement marqués. Alors, Sakina, pour commencer, pourrais-tu me raconter une aventure qui a été marquante pour toi ?
Alors, une des aventures marquantes que j'ai vécues, c'était de la première fois que je suis allée en prison pour aller apporter un projet autour de la mode durable à Fleury-Mérogis. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment transformé ma vie, d'arriver, de rencontrer ces femmes, de rencontrer leur désir de mode, leur désir de dignité, leur désir de séduire. Mmh. Parce que finalement, la séduction, ça paraît tellement pathétique. Avoir un joli rouge à lèvres, ça paraît tellement pas important. Mais en fait, un rouge à lèvres pour la dignité, un joli vêtement pour la dignité, c'est ce qu'elles m'ont appris. Et elles m'ont vraiment encouragée à faire en sorte qu'aujourd'hui, ma mode, c'est une mode militante, c'est une mode engagée, mmh. sans phare, sans avoir honte de le dire. Et je suis très heureuse de voir qu'en ce moment, c'est plus autant un souci qu'il y a quelques années quand j'en parlais.
Alors le podcast Les Nouveaux Aventuriers met en avant des projets engagés, les personnes qui les incarnent. Pour cet épisode en série spéciale avec Les Canaux, nous souhaitions mettre en avant un projet soutenu par cette association autour de la mode éthique. Alors Sakina, tes créations et tes initiatives s'inscrivent parfaitement dans cette démarche. Nous allons l'aborder tout au long de cet épisode. Alors je te propose, pour commencer, de me parler peut-être de ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter, me parler un peu de ton enfance? Est-ce que tu peux me raconter où tu as grandi?
D'abord, moi je suis très contente d'être là avec Elisa, que je remercie. J'étais élevée dans un endroit assez incroyable, avec une grand-mère animiste, qui était un peu sorcière, une gentille sorcière, et qui nous décryptait nos rêves quand on les lui racontait. Donc déjà, c'était merveilleux de grandir dans cette atmosphère. J'étais un peu un petit Mowgli. J'avais de la corne-pied jusque-là, enfin ça se voit pas à la radio, enfin au podcast, mais je grimpais aux arbres et je crois que c'était un des meilleurs, enfin c'est un moment de vie aussi pour moi qui est assez important et qui font qu'on est un autre être humain mmh. quand on arrive à Paris ensuite.
Alors Elisa, peut-être que tu peux aussi te représenter, parce que tu t'étais déjà présentée sur l'épisode qu'on avait fait avec Marius, mais peut-être nous dire voilà, qui tu es et aussi quels sont les liens qui te lient avec Sakina.
Et bien donc, je dirige une association qui s'appelle Les Canaux et dont le but est de défendre justement des acteurs économiques, de les aider dans leurs projets, des acteurs économiques qui s'engagent pour la planète, pour la solidarité. et un peu dans tous les secteurs d'activité, parce que partout, en fait, on peut faire différemment, on peut se poser la question de son rôle dans la société et de l'impact de ce qu'on produit, d'essayer de moins émettre de gaz à effet de serre et donc de s'inscrire à son niveau dans les grands enjeux qui sont devant nous et comment y trouver des réponses. Mmh. Et Sakina, depuis le début des canaux, nous a énormément inspirés, a été notre marraine depuis toujours dans le secteur de la mode, parce qu'elle est vraiment une pionnière en fait dans cette idée de construire une entreprise, de monter un projet, de trouver son marché, mais toujours de se poser des questions sur quel est l'impact de ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je peux faire le mieux possible à toutes les étapes, que ce soit dans la production, que ce soit dans les matériaux. Donc elle a déchiffré depuis quelques années des éléments importants dans la mode, qui est une industrie extrêmement polluante et une industrie qui, en matière sociale, pose un certain nombre de questions. Je pense qu'on va y revenir. Donc ça fait je sais combien de temps que tu as créé ta maison ?
Moi, je l'ai créé en 2002, donc ça fait un bail. Et j'ai démarré à travailler sur les tissus dormants en 98, d'accord, en sortant de l'école.
Et comment tu t'es intéressée justement au milieu de la mode ? Qu'est-ce que ça représentait pour toi, finalement, de devenir créatrice de mode ? À quel moment tu as eu un peu cette lumière, cette révélation ?
Je n'étais pas du tout inspirée par la mode, parce que moi, je viens d'un milieu plutôt ouvrier, et où il n'y avait pas de bouquins à la maison, il n'y avait pas... Mais c'est grâce à l'école. Moi, je trouve que l'école, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça que je défends beaucoup l'école pour les petites filles dans tous les pays du monde. Oui. Pour moi, ça a transformé beaucoup de choses. Je bouquinais beaucoup. J'ai eu la chance d'apprendre à lire en un an en arrivant en France. Et c'était grâce aux bouquins, grâce aux auteurs français, grâce à la littérature française, à Boris Vian, à Baudelaire, enfin des gens aussi incroyables les uns que les autres. Et en fait, un jour, enfin, je passais beaucoup de mon temps au CDI et au collège, et en fait, je vois un bouquin où il y a marqué Coco. Coco, chez moi, ça veut dire grand-mère. Ma grand-mère, elle s'appelle Coco, d'ailleurs. Et donc, elle m'a tellement inspirée, cette grand-mère, que je prends ce bouquin qui s'appelle Coco, m'apprêtant à le dévorer, et là, je découvre la vie d'une femme singulière, étonnante, qui a fait un travail un peu de dingue, parce que c'était quand même une femme entrepreneur, hein, Coco, ouais. Chanel, Gabrielle Chanel. Et du coup, je me suis intéressée à toutes ces femmes qui ont créé des entreprises et comment elles ont changé l'entreprise, comme Madeleine Vionnet, qui a mis par exemple des crèches dans les ateliers, ce qu'on ne sait pas, ou Elsa Schiaparelli. On ne parle pas beaucoup de ces femmes, Schiaparelli, Vionnet, dans la mode, mais c'est très important. Enfin, moi, à chaque fois que je fais une interview, j'essaie de citer leur nom parce qu'on dit souvent grand couturier, et quand on le met au féminin, couturière, ça fait un peu la petite couturière qui est dans l'atelier.
Mmh. Alors, tu as parlé des personnes qui t'ont inspiré dans ce milieu et qui finalement t'ont donné envie d'être créatrice, mais comment on devient créatrice ? Je crois en plus que toi, tu as fait des choix assez singuliers, tu n'as pas forcément fait des stages dans des grandes maisons comme le peuvent le faire beaucoup de créateurs. Comment as-tu construit ce cheminement qui t'a amené aujourd'hui ?
Alors, j'ai pas eu cette chance, effectivement, de faire des ateliers chez des grands créateurs, mais je pense que j'ai eu aussi de la chance de ne pas le faire, parce que ça m'a permis d'être indépendante, ça m'a permis de former autrement ma tête et mes envies. Donc, j'ai fait un stage à l'école de la vie. J'ai installé mon atelier en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3, dans une tour HLM. Et là, j'ai commencé à faire, apprendre mon métier, mais en partageant, en fait, ouais. En voyant qu'il y avait beaucoup de gamins qui étaient un petit peu désœuvrés, en fait. Beaucoup de gamines désœuvrées qui n'allaient pas très loin au niveau des études. Et en fait, la mode, ça les faisait encore rêver. Mmh. Et donc, de marquer juste atelier mode le mercredi et le samedi, ben ça leur donnait envie de venir et de pousser la porte. Donc, du coup, moi, j'ai fait ces ateliers que Jean Baudrillard, le philosophe, a appelé les ateliers du tissu social. J'adore. Donc, j'ai commencé par ça. Et ensuite, petit à petit, moi, ça me donnait de l'énergie, en fait. Les autres me donnent de l'énergie. Et de voir que ben, ça leur apportait une certaine lumière, et ben, ça m'a permis moi de continuer à faire mes vêtements, mes créations que j'ai présentées un jour à Paris grâce à un prix que j'ai eu qui était le prix Talent des Cités. Ouais. J'étais une des premières lauréates de ce concours. Mmh. Et en fait j'ai présenté mes collections comme ça, et j'étais achetée pour la première fois par une acheteuse des Galeries Lafayette qui est venue à mon défilé en Seine-Saint-Denis, sous la gare Euroline. Et j'ai commencé en fait un peu comme ça, à rentrer entre guillemets dans le moule de la mode, enfin ce que je pensais être le moule en tout cas.
Alors, tu as fondé aussi le Front de Mode, dans lequel, enfin, le lieu dans lequel on est aujourd'hui pour réaliser cette interview. Est-ce que tu peux me raconter aussi l'histoire de ce lieu ? On abordera après tout ce que tu y fais et toutes les valeurs que tu défends aussi dans cette industrie qui est la mode, qui est une industrie voilà, assez incroyable finalement sur différents aspects. Mais d'abord, ce lieu, Front de Mode, comment tu l'as imaginé assez tôt finalement aussi ?
Mais en fait, le Front de Mode, c'est un pari. Et en fait, c'est un pari qui arrive à un moment donné. Allez, on se met en 2012-2013 et où on a tous les multimarques. Enfin, le modèle économique de la mode, c'était les multimarques qui prenaient un certain pourcentage, qui représentaient les marques. Mais surtout, toutes les marques. Enfin, moi, je me prenais, mais ça faisait mes genre peut-être 5-6 ans que je me prenais des portes fermées, à part celle, allez, singulière d'un coup de cœur d'une acheteuse qui est vraiment acheteuse, qui adore la mode, qui est très pointue. Je pense par exemple à des gens comme Maria Luisa ou des gens de chez Colette qui décident de ça me plaît, j'ai envie d'y aller, etc. Eh ben, mais ça ne suffisait pas en fait. Et donc les multimarques fermées les unes après les autres, qui étaient finalement notre seul échappatoire en tant que marque. Et en fait, celles qui restaient, elles achetaient que des marques connues parce qu'il fallait bien sûr pouvoir vendre et avoir l'assurance de vendre le prêt-à-porter. Quand tu fais des accessoires, ça paraissait un peu plus simple, mais moi je faisais du prêt-à-porter, enfin je faisais des vêtements. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible que les portes soient fermées, je dois pas être la seule. Et en discutant avec les autres marques, on leur fermait également les portes. Et là, en fait, je me suis dit, il faut qu'on monte un lieu qui est à nous, un lieu qui montre que la mode durable, que le développement durable, c'est du développement désirable. Ouais. Parce qu'en fait, moi j'avais ce sentiment que les acheteuses à l'époque que je rencontrais, pardonnez-moi, enfin je demande mes excuses à toutes ces filles parce que je crois qu'elles bossaient bien, mais à un moment donné, j'avais envie de leur dire, mais vous faites pas assez bien votre travail, il faut aller jusqu'au bout, il faut pousser les portes que vous ne poussez pas. Et en fait, pour elle, la mode durable, c'était que les panchos. Et c'est vrai qu'il y avait de ça. Mais il y avait une singularité. Il y avait autre chose. Il y avait des gens qui allaient au-delà de cette norme-là et qui n'étaient pas là où on les attendait. Et moi, c'est ces gens-là que j'avais envie de représenter au Front de Mode. Et je me suis dit, ben, on va ouvrir ce magasin. Et le défi, ça va être de dire, vous répondez tous à au moins un des trois piliers du développement durable. On ne va pas faire du greenwashing. Il vaut mieux faire peu, mais faire sincère. Ça a toujours été notre leitmotiv. Et donc, on a ouvert ce lieu avec un manifeste qui s'appelle « Pour un écosystème de la mode au XXIe siècle », qu'on a fait signer évidemment à toutes les marques, mais aussi à des gens comme le groupe Kering. D'ailleurs, quand on a ouvert, on a eu la chance d'avoir François Répineaux qui est venu l'inaugurer, qui était notre parrain. Et bon, le groupe Kering a toujours aussi cherché à innover sur le développement durable. Hein, et ça, c'est très important aussi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de dire qu'il faut rassembler les petits acteurs et les grands acteurs.
Alors, dans une interview que tu as donnée il y a quelques mois, tu disais « j'aime la mode quand elle apporte du sens ». Alors, je vous pose la question à toutes les deux. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, une mode qui a du sens ?
Je pense que Sakina l'a bien dit, on ne peut pas tout faire, mais il faut réfléchir aux différents éléments. Donc, une mode qui a du sens, c'est d'abord une mode qui s'inscrit dans les enjeux écologiques. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a la question du réemploi des tissus dormants, comme on les appelle, c'est-à-dire ces rouleaux qui existent par dizaines de milliers, on peut dire, dans des entrepôts et qui ne sont pas utilisés. Il faut dire que derrière un t-shirt, un seul t-shirt en termes de coton, un t-shirt classique, c'est 25 baignoires d'eau utilisées. Donc économiser la matière, utiliser les ressources qui existent déjà, c'est un premier pilier. Deuxième pilier, faire certainement une mode qui dure plus longtemps, sortir de la fast fashion qui veut qu'aujourd'hui, on achète, alors les Américaines, je crois, achètent en moyenne un vêtement par semaine. Mais même nous, en France, en gros, en moyenne, les gens utilisent un cinquième des habits qu'ils ont dans leurs armoires. Donc, on a énormément de choses qu'on achète peut-être comme ça, parce qu'elles coûtent moins cher, qu'après, on n'utilisera pas. Donc, peut-être le sujet, c'est plus de durabilité de ce qu'on achète et donc accepter d'acheter plus cher des choses qu'on gardera longtemps. Et Yves Saint Laurent d'ailleurs disait, il ne s'agit pas d'être à la mode, il s'agit d'avoir du style. Et avoir du style, ce n'est pas acheter le dernier t-shirt dans la couleur de la tendance des 15 derniers jours, mais savoir porter un habit et de savoir le réinventer en permanence. Donc ça, c'est vraiment très important d'acheter moins de mode à l'échelle mondiale, de mieux rémunérer la mode. Et donc, mieux rémunérer la mode, c'est mieux rémunérer les gens qui y travaillent. Donc, se poser aussi la question de tous les gens qui sont derrière ces métiers-là, comment est-ce qu'ils vivent de ça ? Donc, peut-être acheter peut-être plus de mode française, peut-être plus de mode locale, mais également de la mode internationale, hein, parce qu'on ne va pas se dire que tout d'un coup, on va être un village complètement fermé, mais en tout cas, se poser la question de combien sont rémunérés les gens qui fabriquent les vêtements que l'on porte. Ça, c'est une réflexion qu'on partage vraiment avec Sakina. Déjà, on peut toujours se poser la question de ne pas faire travailler des enfants, ça c'est la base. Et on l'a vu avec le Rana Plaza, qui a été un électrochoc dans la mode, et qui est cet immeuble au Bangladesh qui s'est écroulé. Il y avait plus de 1000 personnes qui sont mortes, et notamment des enfants, des mères de famille qui venaient avec leurs enfants, qui travaillaient eux-mêmes. Et quand on a regardé les étiquettes des vêtements qui étaient fabriqués là, on a vu beaucoup de grandes marques très très diffusées dans nos pays et dont probablement les acheteurs se rendaient pas du tout compte en achetant les habits de dans quelles conditions ils étaient fabriqués. Donc
que dire après ça, une mode qui a du sens, et j'imagine que tu partages tout ce qu'il y a là-dessus.
Merci beaucoup Elisa, et je pense que les canons ont beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui est assez porté réellement et profondément par ces sujets. Je pense que effectivement Lorana Plaza, ça a été un catalyseur, je dirais, au niveau international, de prise de conscience sur cette notion de traçabilité. Nous, on travaille de notre côté, on est des tout petits acteurs dans le monde entier. Mais finalement, si on demandait aux clients eux-mêmes de dénoncer, de dire « qui a fait mes vêtements ?»« Who made my clothes ?» et que ce soit lui, en fait, qui interroge, et bien finalement, il y aura évidemment les petits acteurs comme nous, mais peut-être qu'on aura les grands groupes qui, quand même, sont assez responsables aussi de grosses unités de production. Et eux, ils vont s'interroger, puisqu'au final, il y a un chiffre d'affaires qui les intéresse, qui est important pour eux. Et je comprends, il n'y a pas de souci. Mais là, tout d'un coup, de changer de bras et de dire maintenant c'est vous les consommateurs de dire qui fait mes vêtements, comment ça a été fait, qui l'a fait, quel était l'ouvrier. Et là c'est à ce moment là qu'on a réussi vraiment, enfin le sentiment que j'ai, à changer la donne.
Et donc dans ce domaine là Sakina est extrêmement inspirante, parce que durant toute sa carrière de grande créatrice de mode, non seulement elle fait des très beaux habits, mais sur ses habits, elle se pose toujours la question de la traçabilité. Et donc, elle utilise des tissus qui sont justement des tissus dormants pour beaucoup. Et puis, elle a une réflexion sur effectivement qui l'a produit. Et donc, elle s'est installée, par exemple, dans le 18e arrondissement. Elle a créé à la Goutte d'Or un lieu de fabrication et de création. Elle va dans les prisons. Elle accompagne, et c'est pour ça qu'elle est notre marraine, c'est qu'elle soutient derrière elle, elle porte sur ses épaules plein de jeunes créatrices et de jeunes créateurs qui du coup suivent sa démarche. Et même Front Mode, ce concept store qu'elle a créé, c'est encore une fois très généreux, parce que c'est pas uniquement je monte une boutique pour vendre mes propres vêtements, mais je vais donner des messages à tous pour qu'ils puissent nous rejoindre, et je mets en lumière d'autres créateurs qui rentrent dans cette démarche-là.
Alors, tout à l'heure, Elisa a utilisé justement le terme de précurseur en parlant de toi sur la mode éthique. Alors, j'ai encore une fois aussi beaucoup lu de choses sur toi avant de faire cette interview, et j'ai beaucoup aimé des termes que tu as utilisés comme écologie créative, malfringue. Alors aujourd'hui, la mode éthique, c'est presque devenu un terme à la mode justement. Et quel regard portes-tu, Sakina, sur la communication des marques autour de ces enjeux et la difficulté aujourd'hui pour les consommateurs, je pense, de s'y retrouver finalement face à cette communication?
Alors à l'époque, j'avais fait une tribune dans Libé qui s'appelait « Mal bouffe, mal fringue, même combat ». Parce que je trouvais que c'était intéressant de lier les deux, ne serait-ce qu'au niveau sociologique. Moi, je crois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de solutions. On est des acteurs de solutions. Aujourd'hui, comment on peut faire? Parce que, bien évidemment, il y a des vêtements qui peuvent être trop chers pour certains porte-monnaies, il y a des vêtements qui ne peuvent pas plaire à certains goûts, etc., etc. Mais moi, je pense qu'il y en a pour tout le monde, et on a des solutions, la mode éclairée, elle a des solutions pour tout le monde. Par exemple, nous, on parle beaucoup de location. Demain, monsieur et madame tout le monde, parce que tout à l'heure, Elisa disait qu'il y avait un cinquième du placard qui était utilisé, mais monsieur et madame tout le monde, si vous avez envie d'acheter un vêtement créateur et que c'est trop cher, ben vous pouvez aussi louer. il y a ce système de location qui est très important. Une autre solution, c'est le vintage. Donc aujourd'hui, dans les magasins vintage, c'est super important d'y aller. Nous, on a un espace vintage, mais qui est upcyclé ici avec cette créatrice qui s'appelle Cryo, qui est une créatrice allemande, qu'on apprécie beaucoup. On a aussi la réparation. Par exemple, on ne parle pas assez de cette réparation, mais Elisa en a parlé en parlant de la durabilité. Cette importance de faire en sorte que le vêtement dure. En tout cas, moi, personnellement, aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est vraiment d'être dans cette sensibilisation à comment trouver des solutions, moi, quand je ne sais pas ce que c'est que la mode durable, que je ne sais pas consommer durable, comment faire. C'est possible. Après, il y a aussi des acteurs comme Slow Wear, qui sont des gens super, qui ont sorti un super bouquin, là, d'ailleurs. Moi, je vous invite, en tout cas, à aller chercher auprès de ces acteurs.
Ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, et c'est aussi ce que j'observe dans les démarches que vous mettez en place avec les canaux, c'est le fait que tu concilies les enjeux environnementaux et sociaux. Tu as beaucoup justement parlé de ces deux enjeux-là. On vient de parler de la mode éthique et la mode éclairée, mais aussi voilà, de la place des femmes dans la mode, etc. Et donc tu es très engagé justement auprès des femmes et tu te rends régulièrement à la maison d'arrêt de Florimère Regis auprès de ces femmes-là. Tu en as parlé en début d'épisode. Pourquoi t'es-tu finalement imprégné de ce combat-là aussi et quelles actions as-tu mis en place autour de ces enjeux sociaux, justement. Donc, je parlais des femmes, mais j'imagine que voilà, il y a plein d'autres choses que tu as imaginées en ce sens.
Ben, je pense qu'il n'y a de production que parce qu'il y a un humain. Bien sûr, aujourd'hui, on est en train, avec l'industrialisation et les nouveaux métiers, de mettre beaucoup de machines et de réussir à mettre en place beaucoup de machines. Mais l'humain, quand même, à un moment donné, il est dans la chaîne de valeur. Et il faut qu'on soit une chaîne de valeur qui soit réellement créatrice de valeur, en réalité. Et la question de la femme, elle a toujours été très importante parce que moi, je viens d'une société où les femmes, elles sont dans l'ombre, mais en fait, c'est elles qui font, en réalité. Ouais. C'est elles qui dessinent beaucoup de choses, enfin, la société africaine. Moi, j'ai été élevée par des femmes. Les hommes partaient sur la place du village, prenaient le micro, prenaient soi-disant les grandes décisions, mais c'était beaucoup les femmes qui agissaient dans l'ombre. C'était ces ouvrières de l'ombre qui faisaient la lumière dans la société. Et pour moi, ça, c'était essentiel. Donc, j'ai appris ça de ces femmes qui étaient avant moi, dans ma famille. Évidemment, mes actions ne pouvaient aller que pour les femmes, bien sûr. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme action? Par exemple, il y avait quelque chose qui était très important pour moi, c'était la culture. Comme je vous disais, les livres, c'était très important pour moi. La peinture, aller au musée, etc. Mais j'avais pas accès à tout ça dans le milieu où j'ai grandi. Et en fait, je me suis dit, et pourquoi moi, pour justement dire juste merci à la vie de tout ce que j'ai reçu, pourquoi je n'emmènerais pas des femmes vers la culture? Et par exemple, je ne sais pas si Elisa, tu avais vu cette expo que j'avais fait au Petit Palais il y a quelques années. J'avais réussi à faire cette expo grâce à une amie à qui j'ai envie de rendre hommage, qui malheureusement est décédée il y a un an. Enfin, c'est Delphine Lévy, qui est une amie très chère, qui en 2006 a accepté, m'a aidée en tous les cas. Encore une histoire de femme, c'est comme avec Elisa, une histoire de femme qui te fait confiance et qui t'ouvre des portes. Donc Delphine m'a permis d'arriver dans ce musée du Petit Palais où j'ai emmené pendant, ça paraissait impossible, où j'ai emmené pendant 9 mois 12 femmes qui étaient certaines en foyer du jour de chez Emmaüs. Qu'est-ce qu'un foyer du jour chez Emmaüs? C'est des femmes, par exemple, des femmes qui sont à la rue, qui ne savent pas où dormir et qui vont pointer tous les jours en sortant pour venir savoir si elles peuvent dormir là ce soir. Énorme. Ce qu'il ne faut pas oublier, les femmes, on a nos règles. Moi, j'ai été très touchée par les femmes homeless du monde entier, parce que quand tu te retrouves dans le métro et que tu as les règles et tu ne sais pas quoi faire, c'est terrible. Enfin, il n'y a pas que ça d'ailleurs. Et du coup, moi, je me suis dit, il faut que je trouve un grand musée, mais qui soit capable de générosité, qui soit capable d'intelligence, de jouer le jeu. Alors, on en a fait plusieurs, on a été refoulés, et le Petit Palais nous a accueillis, et on avait cet endroit une fois par semaine, et où, dans les ateliers, on créait des vêtements. Alors, on n'en parlait pas de cette mode durable, on n'en parlait pas de récupérer une tonne de vêtements ou 4 tonnes de vêtements d'Emmaüs qu'on met dans un musée et où on travaille pour sensibiliser les femmes, mais aussi plus tard les visiteurs, à l'écologie créative. Et on a fait ce que moi j'appelle l'écologie créative, qui était de dire que ces vêtements, on les transforme et on en fait autre chose. L'objet là-dedans, c'était quoi? L'objectif, là-dedans, c'était quoi? C'était juste de montrer à ces femmes qu'elles n'avaient pas à rougir de ne pas avoir assez d'argent pour changer leur garde-robe. Qu'aujourd'hui, avec Emmaüs, avec d'autres acteurs, ben on pouvait réparer, on pouvait customiser et tout était neuf. Et donc ces femmes, c'était un petit peu pour moi les héroïnes. L'exposition s'appelait l'étoffe des héroïnes. C'était les héroïnes finalement de ce musée et de ce projet qui a reçu 25 000 visiteurs en un mois. Donc on a fait ça avec le Petit Palais.
Et ce que je trouve formidable avec Sakina, c'est que justement, elle montre que l'écologie, la solidarité est tout à fait compatible avec, quelque part, le plus beau, le meilleur. Et elle donne toujours un écrin magnifique à ces projets écologiques et solidaires. Mmh. Et c'est ce que qui transpire dans ta mode.
D'où le terme d'écologie créative, notamment.
Voilà. Mmh. Et c'est aussi ça qui te... Je pense que tu es aussi extrêmement touché par la dignité humaine, rendre la dignité humaine aux gens. Et c'est pour ça que tu vas en prison, c'est pour ça que tu vas aider les femmes à la rue, en leur amenant le beau à elles. Et en disant, voilà, vous avez eu des problèmes, vous êtes en prison parce que vous avez fait des choses qui ont nécessité une peine. Maintenant, vous la payez cette peine et il faut vous reconstruire. Et le beau peut vous aider à vous reconstruire, la mode peut vous aider à vous reconstruire. Mmh. Donc ça, c'est déjà un message magnifique. Ça, c'est une militante.
Mmh. Et je ne peux pas justement ne pas aborder aussi la question du prix finalement, parce qu'en prenant en compte ces enjeux environnementaux et ces enjeux sociaux, comment on fait pour redonner aussi du sens au prix dans le milieu de la mode?
C'est une vraie bonne question, hein, parce que quand on milite, justement, on se pose cette question, forcément. Et donc, on est dans cette complexité qui est entre, OK, on fait un produit, on est dans un modèle économique, il n'y a pas de raison que nous, notre marque engagée, on est une entreprise d'insertion, il ne faut pas l'oublier, baisse les prix là où d'autres prennent ce marché-là. Nous aussi, on a droit, on a cette dignité de pouvoir vraiment avoir ce marché et réussir, parce que plus on vend nous, évidemment, on n'a pas la force de communication marketing qu'ont ceux qui sont à côté de nous, mais plus nous on vend, plus on embauche des personnes en difficulté et plus on les accompagne. Pas mal quand même. Et en même temps, la complexité, c'est, mais on fait ça, mais si cette mode et ce prix excluent les personnes qu'on accompagne et qui viennent, c'est pas possible. Il y a une espèce de schizophrénie, moi j'appelais ça la schizophrénie mal éclairée. Mais en fait, c'est super important de se poser des questions. Et en fait, en me posant cette question, c'est là où des défilés, des vêtements très créateurs, très complexes, très chers qu'on faisait, on en fait toujours. Et bien, à un moment donné, je me suis dit, on va écouter les gamins de Barbès. Donc, dans un des ateliers que je faisais avec ces gamins, en fait, j'avais fait une série en Seine-Saint-Denis et après dans pas mal de banlieues en France qui s'appelait Décoller l'étiquette, ouais. Qui était autour d'enlever les étiquettes parce que tout le monde, tous les gamins voulaient avoir des vêtements de marque. Et les mères venaient me voir dans les ateliers en disant, mais je ne sais pas comment il les a achetés, c'est quand même le RSA, c'est un RSA, quoi. C'est le truc de la famille, quoi. La basket ou le vêtement, etc. Donc en fait, c'est en échangeant avec ces jeunes qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut créer qui peut être abordable? Et en fait, on a créé d'abord des t-shirts et des sweats à l'effigie de Barbès, Goutte d'or, j'adore, Barbès, mon amour, etc., qui ont cartonné. Hein, c'est devenu un des basiques de la maison. C'était inspiré par les gamins, hein, par Sekou, Soriba, enfin bon, tous ces gamins dont, voilà, qui ont foulé leurs pieds dans mon atelier. Et au final, ça nous a vraiment conduit à faire une deuxième ligne. Et en fait, cette deuxième ligne, en fait, on est parti d'un truc en se disant, bon, il faut qu'on ait un acte qui soit beaucoup plus cohérent avec ce que nous sommes. Et en fait, ça nous a beaucoup apporté aussi économiquement, mmh. Il faut le dire, parce que c'était celle qui nous a fait finalement, à un moment donné, vivre en réalité. Donc, merci la vie.
Mmh. Et c'est pareil pour les grandes maisons, tu sais, elles vendent pas beaucoup de robes de haute couture et puis finalement, derrière, elles vivent du prêt-à-porter. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de solutions sur le prix. On l'a dit, en réalité, dans la mode durable, il y a tous les prix aussi, parce qu'on peut commencer par vraiment du pas cher du tout en réemploi sur Vinted et donc pouvoir acheter des habits qui ont été déjà utilisés, comme on peut aller jusqu'à du très cher et du très chic. Pourquoi les gens qui n'ont pas des moyens se posent pas eux aussi la question de la durabilité et des gens qui y travaillent? Expliquons-leur le prix des choses et ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, au-delà du beau, ils auront aussi une démarche solidaire en soutenant une entreprise d'insertion. Mmh. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, les choses ont quand même évolué. Il y a 10 ans, il n'y avait pas autant de possibilités, il n'y avait pas autant de places de marché. Enfin, le Bon Coin n'existait pas, Vinted n'existait pas, les ressourceries n'existaient pas, les magasins de location non plus. Aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité à toutes les bourses d'acheter de la mode durable.
Puis ce qu'il faut rajouter dans ce que dit en complément, dans ce que dit Elisa, qui est très juste, c'est que beaucoup de marques aussi font des efforts, les marques engagées. Par exemple, ben, vous avez rencontré Opal, mais par exemple la précommande aujourd'hui, ben, ça permet en tous les cas d'enlever une marge de la boutique, ce qui permet d'avoir un prix un peu plus abordable et surtout d'empêcher aussi d'avoir du stock. Nous, on a toute une ligne comme ça dans notre marque, ça s'appelle Remake, la ligne Remake. Et cette ligne, ben voilà, c'est que du c'est sur stock et c'est en précommande, etc., etc.
On est passé assez vite finalement sur ton parcours, mais est-ce que tu dirais que tes origines africaines ont été une chance ou plutôt un handicap dans ton parcours de créatrice, ou aucun des deux finalement?
Non,
tu vois
ça a été les deux.
Les deux.
Je dirais que ça a été les deux. D'abord, ça a été une chance.
Il y a assez peu de diversité aujourd'hui finalement dans le milieu de la mode.
Absolument. Mais je pense que humainement, ça a été une chance, parce que c'est une chance de naître en Afrique, c'est une chance de grandir dans un petit village pauvre. Enfin, ça paraît bizarre, mais ça ouvre. Vous pouvez pas imaginer la force que ça donne en réalité. Et après, ce qui était compliqué, c'est effectivement de traverser toute une époque où la mode, ben, il n'y avait pas de créateurs black. Alors, femmes, n'en parlons pas. Alors, bien évidemment, attention, hein, on n'est pas là pour polémiquer parce que c'est d'abord le talent, c'est d'abord... on est bien d'accord avec ça en réalité. Hein. Mais en même temps, tu vois, je dirais aussi, il y a des codes qu'on n'a pas. C'est pour ça que moi, je pense beaucoup souvent aux petites filles, mais même aux gamins. Hein. Moi, j'ai envie d'être un rôle modèle. Et je trouve que c'est très important de faire en sorte qu'il y ait une éducation pour tous, parce que moi, par exemple, voilà, hein, j'ai pas mon bac. Enfin, j'ai eu un truc d'ailleurs avec mon père qui était tout malheureux de que j'ai pas mon bac, parce que pour lui c'était son Graal. Et en fait, un jour, j'ai été sujet du bac. Donc ce jour-là, je me suis vengée. J'ai envoyé à mon père: t'as vu, je suis sujet du bac art plastique, machin, etc. Mais du coup, c'est vrai qu'on a face à nous aussi des gamins et des gamines qui s'arrêtent en troisième, pour certains qui n'ont pas le bac. Attention, ça peut ne pas être handicapant, mais on bataille beaucoup plus dur. La bataille, elle est beaucoup plus compliquée. Quand on va, je ne sais pas, dans telle grande école, ben on crée des liens dans cette école, on se passe, on est solidaires les uns les autres, hein, qu'on soit noir ou blanc ou je ne sais pas quoi, et ben on se soutient, on est des copains de promo, et tout ça, ça existe. Et quand on n'a pas la chance, je ne sais pas moi, de faire Sciences Po ou HEC, moi par exemple, perso, je n'avais pas ce que c'était qu'un modèle économique jusqu'à il y a encore quelques années. Je n'ai pas eu, par exemple, ce que disait Elisa tout à l'heure, qui est très juste. Les grandes marques, c'est vrai qu'elles font toutes des lignes un peu plus complexes pour l'image et une ligne un peu plus prêt-à-porter pour vendre. Ben moi, ça, je l'ai su en faisant, en réalité.
Et c'est ce que nous, on fait au Canot, c'est d'aider justement les entrepreneurs engagés à trouver des modèles économiques et à avoir les mêmes outils, finalement, que les autres pour que, voilà, ils prennent leur place sur le marché et qu'ils puissent être successful.
Alors dans ce podcast, il y a une question que j'appelle la question émotion. Alors quel est le moment le plus heureux et le moment le plus difficile que tu as vécu dans cette aventure stylée finalement?
Waouh. Ben moi je dirais que le moment le plus difficile, ça a été quand... c'est une aventure entrepreneuriale quand même. Hein.
Ouais.
Ça a été qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à me dire soit j'arrête tout, parce que j'ai pas d'issue. Parce qu'en fait, t'es un peu la femme orchestre, hein, ou l'homme orchestre, hein, quand tu montes une entreprise de mode. C'est une entreprise, faut pas oublier, on dépend à la fois du ministère de la culture, mais aussi du ministère de l'industrie, quoi. Enfin, c'est une économie, hein. Et la fois belle et culturelle, mais c'est aussi une économie. Et quand on n'a pas l'outillage de la partie économique, ben, voilà. Donc, j'ai eu un moment comme ça de grande solitude, et où j'ai failli vraiment tout arrêter en me disant, mais d'abord, je suis pas comprise. Tous les gens que je rencontre me disent jusque la mode durable. Je me rappelle encore avoir rencontré une personne dans un grand magasin qui me disait, mais attends, mais porter des vêtements qui ont déjà été portés ou faire de l'upcycling, c'est pas ça le luxe, c'est pas ça la mode, etc., etc. Donc quand on reçoit au quotidien des refus aussi grands par des personnes qui peuvent être des partenaires, hein, de, eh bien c'est dur. Et donc du coup, moi je pense que j'ai eu ce moment-là, je crois qu'on était en 2009-2010. J'ai failli arrêter en fait, mais je pense que le moment le plus heureux, ça a été quand j'ai eu le Grand Prix de la création de la ville de Paris. Ah, elle va être contente, Anne. Parce que ça correspondait à un moment assez difficile où tout ça était en train de se mettre en place, etc. Et vous allez rire, hein, mais... En fait, à l'époque, donc on avait un petit stand où on présentait ce qu'on faisait. Donc on a tous les membres du jury de la mode qui passent, qui regardent, qui disent non, non, c'est bien. Enfin, qui disent pas non, d'ailleurs, ils disent que c'est bien, etc. Ils sont toujours très sympas, très encourageants, etc. Et là où il va y avoir non, c'est bien, c'est est-ce que t'es pris ou pas, quoi. Et en fait, moi, je pensais pas que j'allais passer, que j'allais avoir le Grand Prix de la création de la ville de Paris. Je l'ai fait pour mes salariés en insertion, qui pensaient que j'allais arrêter, et je me suis dit non, mais je vais aller jusqu'au bout pour eux, on va faire ça, ça va nous. Et en fait, au moment où moi j'étais en train de plier pour m'en aller en me disant je vais pas attendre parce que de toute façon c'est pas nous et sans fausse modestie, moi je pensais pas qu'on allait avoir le Grand Prix et je me disais putain, il faut vraiment que je rentre à l'atelier, que je dépose tout ça et que demain on se lève tôt pour aller s'occuper de telle livraison avec les salariés, il faut qu'on... J'étais vraiment plus en mode de... et demain quoi. Ouais. Et ben en fait, il y a quelqu'un qui me voit partir, parce qu'il y avait des gens qui partaient, et moi j'en faisais partie, et qui me dit, mais attends, mais tu vas pas partir? Je dis, si, mais de toute façon, on viendra pour la remise, etc. Ah non, 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 on va l'annoncer, la remise ce sera après, mais vous êtes Grand Prix, on va vous l'annoncer là. J'ai dit, ah bon? Et on est resté. Et là, ça a été un vrai grand moment, parce que c'était un moment où j'étais dans une faiblesse intense, et où j'étais en train de baisser les bras, et où tout d'un coup, je croyais tellement pas en moi, qu'au final, je n'ai pas compris pourquoi, vraiment. Et on a eu ce Grand Prix, qui était pour moi très important, parce que vous n'imaginez pas pourquoi moi je défends la mode éclairée. Moi, donc africaine, vous n'imaginez pas ce que ça représente pour nous, Africains, la France. La France, le pays des Lumières, le pays du siècle des Lumières. C'est ce lieu de culture, on nous a donné, on nous a éduqués comme ça. C'est incroyable. Ouais. Et d'arriver ici, moi je me suis dit, putain, mais je suis à Paris, la ville de la mode, la ville lumière. Il y a des gens qui ne comprenaient pas la portée de tout ça, et la fierté que je pouvais avoir, et la reconnaissance profonde que je pouvais avoir. Les gens, ils ne savaient pas tout le chemin que j'ai fait pour arriver à ça. Mais j'étais... heureuse et tellement fière, c'est ce moment-là.
Mmh. Alors, tu as parlé de rêves en début de ce podcast, les rêves que tu racontais ou qu'on te racontait. Quel serait ton rêve aujourd'hui dans ce que tu fais aujourd'hui ou dans la thématique de la mode? Est-ce que tu as un rêve?
Alors, moi, j'en ai plein. Hein. Moi, je suis bouddhiste et j'ai un maître qui dit qu'il faut avoir des rêves grands tous les matins. Et moi, j'en ai plein tous les jours.
Tu peux nous en raconter un ou pas?
Moi, aujourd'hui, en fait, mon rêve serait de vraiment réussir à porter avec mon entreprise. Hein. J'ai compris un jour qu'en fait, l'entreprise, c'était une vie. En fait, c'était la vie aussi. On pouvait donner cette métaphore de ton entreprise, c'est aussi ta vie. Et du coup, tu y mets... tout ce que tu as envie d'y mettre. C'est pour ça que j'ai mis de l'humain, que j'ai mis de tout l'aspect économique, etc. Mais j'aimerais bien travailler encore beaucoup plus cet aspect économique. Hein. Aujourd'hui, on s'en sort plutôt bien. Je suis profondément reconnaissante. Mais j'ai vraiment envie... On est en train de prendre un chemin avec une équipe que j'adore. Je pense que si demain, on se parle dans 5 ans et qu'on a notre marque sur l'aspect international, qu'on n'a pas beaucoup travaillé. En fait, nous, on a travaillé beaucoup l'aspect international au niveau social. Je suis allée dans les favelas, je suis allée dans la township en Afrique du Sud, je suis allée au Bangladesh, j'ai fait énormément d'ateliers là-bas. Les gens connaissent ce qu'on fait au niveau social, mais pas du tout au niveau vêtements. Mmh. Et nous, on a vraiment envie d'aller toucher au niveau de l'international ce pari-là, de dire que voilà, ce qu'on a fait, c'était un pari qu'on a monté il y a quelques années, et bien aujourd'hui vous le portez, et vous le portez au niveau international, donc ça c'est un vrai enjeu chez nous.
Alors quels sont les projets à venir pour toi Sakina, et aussi pour les canaux sur cette thématique-là, est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours ou à venir sur les questions de la mode?
Alors nous, sur les questions de mode, on continue à soutenir des créateurs de mode, donc dans leurs différentes métiers, parce qu'effectivement, l'entrepreneur, le créateur de mode, c'est un entrepreneur couteau suisse, hein, qui doit un peu tout faire, donc les aider à se structurer, donc toujours gratuitement, puisqu'on fait des ateliers gratuits pour les entrepreneurs. Et puis, on a aussi des moments de mise en lumière, de mise en lien. Donc, il y a un marché de Noël bientôt au Canot, ou des créateurs, puis bientôt aussi un festival de la mode éthique. Donc, Sakina est la marraine. Et puis, les aider aussi à avoir, voilà, à toucher des entreprises, à avoir aussi accès à des marchés, comme des marchés publics, parce que ça peut être aussi un moyen de se développer. Pour nous, c'est un thème très important, la mode, parce que surtout en France, on est le pays de la capitale de la mode. On aime bien au Canot mettre en lumière des choses qui parlent aux gens. Et je pense que effectivement, le secteur de la mode doit faire la même transition qu'a fait celui de l'alimentaire, avec une prise de conscience beaucoup plus large des enjeux, en fait, qui sont derrière, des enjeux humains et des enjeux écologiques.
Toi, Sakina, tes projets là, à moyen court, à moyen terme?
Ben, à moyen terme, nous, on est en train de passer à une autre levée de fonds, parce qu'on en a fait une en 2014. Donc, on est en train de faire une nouvelle levée de fonds avec de nouveaux investisseurs. Donc, pour nous, c'est de la réussir, mais de la réussir comme on l'a fait la première, hein, parce qu'on est, autour de nous, on a des investisseurs sociaux, parce qu'il faut savoir, et je pense que Elisa doit accompagner aussi les marques, parce qu'à un moment donné, il faut passer aussi à une autre échelle. Et quand on passe à une autre échelle, ben, il faut s'associer avec des investisseurs qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et nous, c'est le véritable enjeu, parce qu'on a la chance d'être approchés par des investisseurs qui ne sont pas sociaux, d'autres oui, mais du coup il va falloir qu'on fasse les bons choix et que ceux qui ne sont pas sociaux comprennent aussi quel est notre véritable combat et que nous aussi on les comprenne aussi, parce que ça va dans les deux sens pour que ça marche.
Alors, comme à chaque fin d'épisode, je vous propose de répondre à une série de questions si d'aventure. Alors, si d'aventure, tu devais citer, Sakina, une créatrice ou un créateur de mode qui t'inspire actuellement, quelle créatrice ou créateur citerais-tu?
Vivienne Westwood.
Alors, si d'aventure, alors là c'est pour toutes les deux, si d'aventure vous deviez prendre une mesure ou décision pour que la mode ait plus de sens, quelle mesure ou décision prendriez-vous?
Alors moi, je ne sais pas si c'est possible, mais je souhaiterais ou j'adorerais que sur les étiquettes, on rende obligatoire le salaire moyen horaire de la personne qui a cousu le vêtement. Donc ça voudra dire au Bangladesh, ça sera 50 centimes de l'heure. Puisque le salaire moyen des couturières au Bangladesh est de 80 euros par mois. Et en France, on a un SMIC, donc on est sur 8 euros de l'heure. Quand on est au SMIC, on peut être plus. Voilà. Et ça, ce serait vraiment, je pense, un indicateur qui permettrait aux gens de se rendre compte de la valeur des choses.
Ah, moi j'adore, super. Enfin, s'il faut aller militer là-dessus, je viens avec toi. Moi je dirais d'aller jusqu'au bout de cette loi AGEC, parce que...
La loi sur l'économie circulaire qui est sortie en janvier 2021.
Et qu'elle soit vraiment prise en compte réellement et profondément, à la fois par les grandes enseignes, par les marques, et qui est vraiment qu'on trouve des facilitateurs dans les grandes enseignes, et que les créateurs aussi s'en emparent dans leur modèle économique, mais aussi les grands groupes.
Puisque la loi AGEC, juste peut-être pour préciser, interdit la destruction de vêtements en France, comme on a interdit la destruction de biens alimentaires, et ça a amené les supermarchés et les commerçants alimentaires à donner à toutes les associations de solidarité. On est en train de faire le même chemin sur le vêtement, donc on ne pourra plus les détruire, alors qu'il y a énormément de vêtements détruits tous les ans. Et donc il faudra en faire des choses, et donc là il y a tout un modèle économique du recyclage, de la réinvention à inventer.
Alors Sakina, si d'aventure tu devais choisir la matière avec laquelle tu préfères travailler, coton, lin, soie, quelle matière choisirais-tu?
Ah, j'adore, je les aime toutes, hein, c'est facile à dire, mais écoute, moi j'aime... pendant un moment, c'était le coton, pour pas mal de raisons. Et pour pas mal des raisons, malheureusement, j'ai arrêté de travailler le coton, parce que c'était vraiment celle qui polluait le plus, en réalité, à l'époque, même si on nous disait que coton bio, c'est super, etc. J'ai envie vraiment de me battre pour le lin français, qui est vraiment un véritable enjeu pour nous. Donc je salue aussi tous mes amis, hein, qui travaillent sur ce Made in une France sur des projets comme ceux-là. Je pense à Guillaume Gibault du Slip, enfin bon, à plein d'autres. Et je pense que c'est une belle aventure de défendre le lin français.
Et enfin, si d'aventure vous deviez donner un titre à cet épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, quel titre lui donneriez-vous ?
La mode militante.
La mode militante, oui.
J'adore.
Alors pour conclure, j'invite les auditrices et les auditeurs du podcast à consulter le site internet Les Nouveaux Aventuriers pour découvrir le reportage photo de cette immersion au front de mode. Les liens sont dans la description de cet épisode. Un grand merci Elisa d'avoir représenté les canaux et à son rôle d'accompagnement auprès d'entrepreneurs comme Sakina. Et bravo Sakina pour tes créations et ses engagements qui font honneur à la mode française.
Merci beaucoup.
À bientôt, merci.
Merci Elisa.
Un grand merci d'avoir écouté cette aventure. Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes autour de vous. Vous pouvez également lui donner un maximum d'étoiles sur l'application Apple Podcast. Enfin, rendez-vous sur la page Instagram Les Nouveaux Aventuriers pour suivre l'itinérance de ce projet. À très vite pour de nouvelles aventures.